bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Carnets de Comaguerre. En compagnie de Roselyne, ma complice que je salue, que je remercie, et toujours bien sûr de Sidi que je remercie.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Sidi, merci d'être avec nous, toujours fidèle. Je vais commencer par évoquer un sujet que je n'ai pas abordé, mais je vais l'aborder sous le plan de la com élyséenne, appelons ça comme ça, tout le monde comprendra. Il s'est tenu donc il y a 15 jours, je crois, un sommet Afrique-France. Alors regardez, on avait changé le sens des mots, hein, comme c'était bien vu. Hein, ce n'était pas la France et l'Afrique, c'était l'Afrique et la France. Bon, alors effectivement, les Africains étaient... Enfin, le nombre de pays que la France embête avec son néocolonialisme, il est plus important que la France toute seule. Hein, mais elle en embête beaucoup quand même encore. Bon. C'est en train de changer, je vais y revenir. Et donc ce sommet France-Afrique, qui s'est... Afrique-France, pardon. Alors tant pis, vous avez bien compris de quoi il s'agit. C'est tenu à Montpellier. Et je voulais simplement m'arrêter, pas sur son contenu, mais sur son changement de style. D'abord, le changement de l'appellation. En soi, on est en plein dans la com, c'est-à-dire le produit se vend mal, le produit France-Afrique, il se vend de plus en plus mal. Il y a des manifestations contre le produit France-Afrique et contre la France-Afrique elle-même, au Mali, et à différents endroits. Bon, donc on change le nom du produit pour le mettre sur les mêmes gondoles, c'est-à-dire le néocolonialisme français, mais ça s'appelle Afrique-France. Et on arrive à recruter un certain nombre de gens, des intellectuels de qualité, je le regrette pour eux, des gens du milieu des affaires, des gens du milieu du spectacle, pour parler de leur Afrique, celle dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils gagnent leur vie, etc., dans laquelle ils sont connus. Et en fait, l'opération est la suivante, c'est que quand vous changez Afrique, France à la place de France-Afrique, vous enlevez les vieux chefs d'État, j'insiste, que la France-Afrique a mis en place et qui sont toujours là, et qu'elle protège par tous les moyens, y compris militaires, pour qu'ils continuent à rendre des services à l'empire colonial français. Donc, je cite quelques-uns, Ouattara, Alpha Condé, etc. Ces gens-là, alors, pensez à l'image, car on ne pense jamais assez qu'il y a autour d'Emmanuel Macron, allez-y, des spécialistes de la communication et donc de l'image. Et alors l'image d'un Emmanuel Macron entouré de vieux chefs d'État, contestés, ayant 30 ou 35 ans de plus que lui, c'est pas très positif, c'est pas très porteur, il est dans le camp des vieux. Or, je l'ai déjà dit et je le maintiens, si Macron est un véhicule d'idées vieilles, il veut tromper sur son image à lui. C'est-à-dire, lui veut donner l'image du jeune. Sa politique n'est pas une politique nouvelle, donc ça ne marche pas. Mais il joue là-dessus. Donc cette image, c'est dire, on remplace, on met à l'écart, on ne veut surtout pas montrer ces vieux dictateurs corrompus, achetés, etc. Et on met des plus jeunes, qui sont quand même connus dans leur pays. Et puis, on implique un intellectuel de qualité, Achille Mbembe, qui s'est livré, enfin, qui a... C'est complu dans cette opération pour être un peu le grand maître de cette cérémonie-là. Bon, c'est regrettable pour lui. Ça n'a rien donné de plus. Et d'ailleurs, à différentes interventions que Macron a fait au cours de ce sommet d'un nouveau style, il a bien montré que c'était encore lui qui était le maître de ballet. Donc, aucune illusion là-dessus, simplement changement de forme, changement de style et changement d'image. Car ce qui importe pour l'Élysée, en ce moment, en pleine campagne présidentielle, vous avez compris, c'est l'image. C'est ça qui compte. Bon, voilà, rien de plus là-dessus. On en reparlera peut-être, encore que ce n'est pas... Voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. Hein, c'est un changement, je dis, sur la tête de gondole, on a enlevé le produit France-Afrique, on a mis le produit Afrique-France, c'est tout. Hein, mais c'est la même politique néocoloniale, avec des habits neufs, les habits neufs du président Macron, comme disait l'autre à propos d'un autre chef d'État, et c'est rien de plus. Voilà. Il a changé son costume, alors il a les moyens, n'en parlons plus. On reparlera, mais un peu plus tard, et je pense la semaine prochaine ou peut-être la suivante, du congrès qui s'est tenu, alors qui lui a de l'importance politique en Côte d'Ivoire pour la création du nouveau parti dont Laurent Gbagbo a été le nouveau président élu. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une interview d'un participant et donc d'un témoin direct de ce congrès constitutif du nouveau parti qui est fait pour peser dans la vie politique ivoirienne, dans le sens de la démocratie, dans le sens d'une république indépendante de la France, où ce ne seraient plus les militaires français qui regarderaient arriver tous les avions sur l'aéroport international d'Abidjan. Car c'est ça la situation géographique. La géographie et la topographie, ça a du sens. Quand vous avez le principal aéroport d'un pays qui est une des grosses l'économie de cette zone-là du golfe de Guinée, et qu'autour de ce terrain d'aviation public, ouvert à toutes les compagnies, c'est l'armée française qui veille, vous avez quand même un sentiment d'être contrôlé quelque part. Ça veut dire qu'il leur suffirait de 2 minutes pour bloquer les pistes. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas le président de la Côte d'Ivoire qui leur demanderait de le faire. Pas
non,
nécessaire.
Moi, je suis toujours étonnée que cela ne choque pas les Français.
Mais on leur montre peut-être pas suffisamment. On leur dit, il y a des Français en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas regardé où ils sont. En fait, regardez.
J'ai oublié de le dire sur BFM TV.
Voilà, voilà. Alors, on salue l'arrivée de Habib, et je crois que tu avais des choses à nous raconter, donc oui. On te donne la parole quand tu veux, mais quand tu as ôté ton blouson, ou tu es prêt, tu me dis quand tu es prêt.
Je suis prêt. Allez.
Voilà. Alors, je dis deux choses, parce que ce sera assez bref. Sur, j'ai sous les yeux la carte d'un vote donc à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est le vote exprimé le jour où la République populaire de Chine remplace, comme on l'attendait, Taïwan comme représentant de la totalité des Chinois au sein de l'ONU. Ça se passe donc en octobre 1971, donc il y a exactement 50 ans, et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est très très intéressant parce qu'il n'y a pas eu du tout unanimité des membres de l'époque de l'ONU pour accepter la Chine à la place de Taïwan, puisque en gros, ils ont, la majorité des deux tiers qui étaient exigés a été retenue, mais on a quand même des pays qui se sont opposés à l'entrée de la Chine, donc la Chine, la vraie Chine, j'allais dire, à l'ONU. Ce sont l'Arabie Saoudite, pas de surprise, l'Afrique du Sud de l'apartheid, pas de surprise non plus, les États-Unis, bien entendu, qui se sont fait arracher cet accord, mais qui n'avaient pas envie que la Chine populaire remplace Taïwan, le Brésil, le Costa Rica, l'Australie, le Japon, les Philippines, et j'en reviens à mon sujet précédent, la totalité des anciennes colonies françaises, plus le Congo belge, avaient voté contre l'entrée de la République populaire de Chine à l'ONU. Donc les Oufouet Boily, je pense à lui en particulier, on est en 71, faisaient partie de ceux qui défendaient la position « c'est Taïwan, c'est les 20 millions de Taïwanais qui sont les représentants du milliard de Chinois ». Alors il y avait lui, il y avait tout le monde, le Tchad, la République centrafricaine, j'ai tous les yeux, la République du Congo, le Gabon. Alors il y avait quelques exceptions, mais très très peu. Et le reste de l'Afrique, effectivement, plus au nord, l'ensemble des pays du Maghreb, le Soudan, l'Égypte, tout cela avait voté pour l'entrée de la Chine. C'était un élément à rappeler, et surtout pour reparler de cette Côte d'Ivoire et donc de ces colonies françaises, qui alors que la France a voté pour... Parce que la France était tenue par la position prise par De Gaulle quelques années avant. Elle ne pouvait pas se déjuger. Mais en fait, les colonies françaises, il faut savoir que dans les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins contraignant, mais les colonies, les anciennes colonies françaises, en 1971, en 1980, suivaient les consignes du représentant de la France à l'ONU pour voter pour ou contre tel ou tel objet qui était sur la table du débat. C'est ça qu'il faut retenir. Ce néocolonialisme-là vit toujours. Voilà. Habib, c'est à toi.
Alors, merci d'abord de me donner la parole. Merci à Radio Galère, Sidi et mes amis Bernard Genet et Roseline. Voilà. Je voulais en parler un petit peu de toutes ces matières grises qui sont déplacées, enfin qui sont déplacées par la guerre, par une guerre qui a été imposée à la Syrie bien avant 2011. Donc en 2010, la valeur de l'euro, il valait 40 livres syriens, et qu'actuellement, avec cette guerre imposée à la Syrie depuis 2011 jusqu'à nos jours, il se trouve que l'euro se trouve entre 3500 et 4000 euros. 4000 livres syriens, excusez-moi. Sur le plan économique, évidemment, la Syrie subit d'une part la loi César. La loi César, c'est une loi imposée par l'Amérique, USA, et surtout aussi l'embargo de l'Europe. Et certains pays arabes, il ne faut pas oublier, qu'ils ont causé une catastrophe économique sur le peuple, surtout syrien. Et uniquement le peuple qui subit tout ça. Celui-ci, ce peuple qui a... On connaît l'histoire de la Syrie, qui a subi beaucoup de guerres. et qui a subi aussi l'Empire ottoman et tout ça, le peuple syrien n'est pas tombé dans ce piège imposé par l'Amérique, le peuple, certains pays arabes et surtout l'Europe. Je continue toujours à le répéter parce que, bon, c'est normal. Alors, le peuple continue à soutenir le pouvoir qui est en place, malgré quand même cette crise économique qui est très, très difficile à supporter. Et cette guerre imposée a provoqué beaucoup de morts. Je ne connais pas tout à fait le nombre des morts exacts parce qu'il y a plusieurs pays qui disent qu'il y a tant ceci, tant cela. Bon, le pouvoir syrien il dit environ dans les 300 000. Bon, c'est ce que j'en ai parlé. Alors, personne ne peut donc dire les chiffres exacts des centaines, des milles. Ceci a provoqué des millions de réfugiés. À l'extérieur du pays, on a un premier qui a reçu énormément de réfugiés. En premier, c'est le Canada. Le deuxième, l'Australie. Le troisième, l'Allemagne. Le quatrième, je ne me rappelle plus lequel, mais bon. En dernier, je vous dis, la France a reçu, en dernier, elle se trouve au 15e ou 20e position, 7%. Voilà. Alors, bien sûr, ces millions de réfugiés à l'extérieur du pays se trouvent énormément, beaucoup en Turquie, en Jordanie, d'ailleurs, la Turquie a joué une carte très malhonnête en se servant de ses réfugiés. La Jordanie aussi, aussi bien que la Turquie, elle a essayé aussi. L'Irak, le Liban, l'Égypte et certains pays arabes. Donc, l'Europe a accepté de réfugiés possédant surtout des bacheliers
et des
toubibs, des ingénieurs, voilà. Des avocats et tout particulièrement l'Allemagne. Je sais que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont toubibs, qui sont réfugiés en France et tout ça. Bon, j'en connais pas mal. Donc, toute cette matière grasse qui s'échappe, parce que la Syrie, il n'y a pas d'inalphabète, ça n'existe pas. La Syrie, la plupart des gens, on peut dire, savent très bien lire et écrire, possédant beaucoup, beaucoup des bacheliers, le baccalauréat, quoi. Bon, voilà. Alors, d'après ce que j'ai entendu, c'est que Mme Merkel avait accepté environ plus de 8 000 entre toubib, avocat, bachelier, tout ce qui s'ensuit. Voilà. La France, beaucoup de docteurs et dans la recherche scientifique. En Amérique, vous avez énormément aussi des matières grises syriennes qui sont parties. Particulièrement, il y a une femme actuellement qui se trouve à la NASA, qui est d'origine syrienne, parlant couramment l'arabe. Et elle travaille sur la recherche spatiale, surtout solaire, je crois, hein, dans ces domaines-là. Je n'ai pas oublié aussi la Suède, une grande, beaucoup, beaucoup de commerçants suédois, enfin syriens qui se trouvent en Suède et en Autriche aussi. Beaucoup de Syriens qui sont des toubibs, des docteurs, des ingénieurs et puis même beaucoup de commerçants. Je sais qu'en Égypte, pratiquement une grande partie de l'industrie d'Alep se trouve au Caire. Se sont installés, voilà, en Égypte, ils ont des usines, et comme vous savez, le Syrien, c'est des gens qui sont très dynamiques, clairvoyants, et qui sont des grands commerçants, depuis les Vénitiens, je crois, hein, Bernard.
Oui, même avant. Même du temps des Romains, ils étaient déjà importants dans le commerce entre l'Empire romain et l'Inde.
Oui.
Puisque une partie de la marchandise qui s'échangeait passait par Palmyre, où elle arrivait donc à dos de chameau ou de cheval, et repartait par le Chott el-Arabe, donc par l'issue.
Chott el-Arabe.
Chott el-Arabe, donc ouais.
Le golfe persique, quoi.
Le golfe persique vers l'Inde.
Mais c'est vrai qu'il y a deux noms, le Chott el-Arabe et le golfe persique. Ouais.
Donc c'est une vieille histoire, l'histoire de Palmyre.
Alors, ne pas oublier l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a énormément aussi reçu de ces matières grises syriennes. Hein. Ouais. Il y a surtout l'Argentine, le Venezuela, Venezuela. Il y a une communauté, mais vachement importante au Venezuela, qui est très actif aussi. D'abord, il y a une grande journaliste qui travaille sur le Mayadin, elle donnait beaucoup les informations sur l'Amérique du Sud. Le Venezuela particulièrement, parce qu'elle est d'origine syrienne et donc elle a la nationalité vénézuélienne. Alors je parlais de la Bolivie, le Brésil et surtout l'Argentine, une grande communauté qui date depuis... Non seulement depuis la Première Guerre mondiale, mais aussi actuellement. Beaucoup se sont réfugiés aussi en Argentine. Et bien sûr, bon, pour tous ces pays, alors, cette facture a coûté très très cher au pouvoir politique qui se trouve en Syrie. Parce que bon, la plupart... il ne faut pas oublier que la plupart des Syriens ont subi, comment on appelle, les écoles. Et je voulais dire par là que les écoles étaient gratuites.
Oui, on profitait du système de la gratuité.
Et même les cahiers, les livres, ils sont distribués dans les écoles primaires, secondaires et dans les universités.
Et une grande abondance de bourses aussi pour aller à l'étranger.
Hein. Voilà. Et beaucoup, beaucoup, oui, actuellement, parce que je sais pas mal, surtout sur Marseille et la Timone, il y a énormément de toubibs, des dentistes, des trucs comme ça qui ont été formés. Et à Aix-en-Provence, à Montpellier aussi. Voilà. Donc ça a dû coûter très cher, cette histoire, à la Syrie.
Voilà. Et on est devant un système de pillage généralisé, c'est-à-dire qu'assez souvent, on laisse les pays moins développés former leurs cadres, et après, on les appâte avec des salaires plus élevés. Donc ils ont payé la formation, et donc on a des gens formés gratuitement, sur le dos des peuples.
Il y a beaucoup, même si vous...
Tout à fait.
La Côte d'Ivoire, rappelez-vous, la Côte d'Ivoire, c'est pareil.
Bien sûr, c'est du pillage, c'est une ressource, c'est la ressource humaine.
Dans tous les pays en voie de développement ou sous-développé.
Voilà. Le pillage ne s'arrête pas au minerai, ça s'arrête aussi ce que tu dis à la matière grise. C'est même encore plus intéressant, mais ça coûte très cher de former quelqu'un jusqu'à 25 ans au meilleur niveau dans sa discipline. Et après, on se l'approprie.
Exactement. Alors, je vous dis, je termine en disant que la Syrie, c'est la mère du monde, où tous les dieux sont nés, et les prophètes aussi.
Explique plus en détail ça, en fait.
Je lance ce truc à mes amis syriens, qu'il ne faut pas oublier la Syrie. La Syrie, c'est votre pays. Quels qu'ils soient, les réfugiés qui se trouvent quelque part, pensez que vous avez une patrie mère. Voilà. Je termine là-dessus, je laisse Bernard continuer.
Non, mais je vais compléter en ce sens. Ça veut dire quoi, effectivement, sur le territoire qui était un peu plus vaste que la Syrie actuelle, mais enfin, à cet endroit-là du monde, disons, donc, entre la Méditerranée et le monde moyen-oriental, du Chotel arabe, du Golfe Persique et tout, et de la Perse de l'autre côté, il est né le judaïsme. Oui. Il est né ensuite le christianisme, que les chrétiens qui nous écoutent, ça doit arriver, pensent à l'apôtre Paul. Paul est un Syrien. Hein. Le chemin de Damas, qu'il a rendu célèbre, c'est parce qu'il va à, c'est que là, il a la révélation en allant à Damas.
Et sa tête se trouve dans la mosquée
des Omeyyades, voilà, à Damas. Donc, et puis ensuite, l'islam, alors, ne démarre pas, on le sait, il démarre dans la péninsule arabique, mais il va s'installer là avec le premier califat, celui des Omeyyades, qui est installé à Damas. Bon, donc, effectivement, on a la terre où ces trois religions, les trois religions du livre, comme on dit, les trois monothéismes, se sont développés. Alors après, chacun a trouvé sa place. Aujourd'hui, c'est de fait l'islam qui est dominant dans la population syrienne, mais il y a des traces et des restes de la présence chrétienne, non nulle, moins de la présence juive, mais quand même, il y en a aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi des juifs en Iran qui vivent une vie tranquille, ce qui n'est pas le cas partout.
Ils ont deux députés.
Voilà. Donc on sait que c'est un endroit du monde où ces trois monothéismes sont nés, se sont développés. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à aucun moment, ce qui serait voulu par des extrémistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, parce que les extrémistes francs, je veux dire les croisés, ils voulaient un peu piller, mais aussi imposer leur religion, réimposer la religion chrétienne. En fait, la Syrie a maintenu, non pas un équilibre entre les trois courants du livre, mais au moins chacun peut vivre. Et on sait, on a eu
jusqu'à présent.
Voilà, jusqu'à présent. Et c'est ce qui est en jeu à l'heure actuelle. Il faut savoir que, j'insiste là-dessus, c'est dans la constitution actuelle de la République arabe syrienne. Elle dit bien son nom parce qu'il s'agit d'une population arabe. Et ça ne veut pas dire musulmane. La seule référence qui est faite dans la constitution actuelle de la Syrie, c'est que le président de la République doit être un musulman. C'est tout. Ça veut dire, à contrario, que la totalité des ministres, la totalité des généraux, la totalité de l'état-major peut avoir n'importe quelle religion. Alors effectivement, les musulmans étant majoritaires, ils sont probablement aussi dans ces pays, mais ça permet à ce qu'un chrétien soit ministre, un chrétien soit ambassadeur, un chrétien soit...
Le président de l'Assemblée du Parlement,
voilà,
qui
tout
est
à fait.
Catholique. Quoi.
Voilà,
j'insiste là-dessus. Il y a des généraux aussi dans l'armée qui sont
bien
catholiques.
Bien sûr. Ouais. Alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a une confusion qui est dramatique, qui est faite... surtout dans une campagne électorale présidentielle telle qu'elle est en train de s'organiser chez nous, une confusion dramatique entre la notion d'arabe et la notion de musulman, qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. On ne parle pas du même registre de la vie humaine. Bon, c'est ça qu'il faut redire à propos de la Syrie. Et ce qui est en jeu dans la guerre de Syrie, c'est effectivement ce qui a été en jeu. Alors ça a raté, l'État islamique n'a pas réussi à s'installer. Il reste encore des djihadistes. Il en reste encore trop. C'est pour ça que la situation n'est pas stabilisée. C'est-à-dire des djihadistes, c'est des gens qui veulent imposer leur religion à tous les autres, au prix de la vie des autres. On a bien compris la mécanique. Bon. Ça continue. Les dernières nouvelles qu'on a, si tu as suivi Habib, c'est qu'en fait, il se prépare probablement le dernier grand combat dans le nord-est de la Syrie entre les troupes turques qui sont sur un sol qu'elles ont envahi, les troupes turques qui sont là et qui veulent essayer d'en finir avec ce qu'on appelle la force démocratique syrienne, qui sont en partie des Kurdes.
FDS, oui.
Voilà. Ce que veut faire Erdogan et la Turquie, c'est éliminer physiquement, un par un, tous les Kurdes qui se trouvent là. Bon. Aux Kurdes de choisir, et je pense que ça ne tardera pas, de savoir s'ils acceptent de rester sur le territoire syrien où ils trouveront leur place, et de travailler avec l'armée arabe syrienne pour défendre le territoire et la souveraineté de la Géorgie. C'est ça qui se joue en ce moment autour de
exactement.
Voilà.
Ouais.
En même temps
Idlib, ça commence déjà, il y a des bombardements.
Et l'autre foyer étant Idlib, donc à l'extrême ouest du territoire, aux confins de la Turquie, avec frontières ouvertes avec la Turquie, frontières ouvertes à l'armée turque, frontières ouvertes aux espions turcs, frontières ouvertes aux médecins turcs, enfin tout ça, c'est à Idlib, et pour l'instant une colonie turque, avec un groupe djihadiste qui en dépend.
Et qui sont étrangers, c'est ça
qui est... Oui, c'est ça, c'est des mercenaires.
Des mercenaires, des Tchétchènes, des les avocats. Bon,
donc, alors ça, on sent qu'on est au bout de ce processus qui dure depuis déjà assez longtemps, hélas, mais ça n'exclut pas encore ce qui se passe, le réveil de cellules dormantes djihadistes, il y a des gens qui disparaissent dans la circulation, on ne les voit plus, et puis qui tout d'un coup, à un endroit où tout est calme depuis des mois, des semaines et tout, où la vie normale a repris, mettent une bombe et tuent des gens.
Oui, il y a eu un attentat à Damas.
À Damas. Hein. C'est la fin. C'est ce qui reste. C'est le dernier soubresaut du terrorisme, ça, quand on en est là.
Exactement. Ouais.
Mais cette phase-là n'est pas encore atteinte partout, puisqu'il y a ces deux morceaux du territoire de la Syrie qui sont encore entre des mains étrangères, entre les mains de l'armée turque, pour être clair, avec la complicité de ce qui reste de soldats des États-Unis.
Dernièrement, il y avait des drones qui ont bombardé la base américaine.
Tout à fait. Voilà. Alors, je profite de ce que tu évoquais sur la diaspora syrienne. Alors, pour les, je crois que ce soit un Syrien, mais il a été beaucoup question ces jours-ci d'un Vénézuélien qui s'appelle M. Saab, qui est peut-être Syrien, peut-être Libanais, je n'ai pas trouvé ça, son pays d'origine, qui en fait, alors il lui est arrivé une aventure assez extraordinaire, ce monsieur est un homme d'affaires connu, qui a rendu des services au gouvernement du Venezuela, d'abord du temps de Chavez, qu'il avait recruté, et ensuite du temps de Maduro. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que ça veut dire rendre des services? Quand vous êtes dans un pays qui est frappé dans un embargo par les États-Unis et tout l'Occident à sa suite, vous essayez de sauver la vie économique de tous les jours de ce pays-là. Donc vous essayez de faire rentrer des produits qu'on vous empêche d'acheter et vous trouvez des gens qui sont dans le milieu des affaires qui vont vous aider, qui vont dire « Moi, ça y est, je sais faire, je prends ça à mon compte, après vous rémunérez mes services, je suis un intermédiaire, si vous voulez, mais je suis d'accord avec vous. » Ce monsieur Saab donc, avait été recruté par Hugo Chavez. Il a continué ses activités du temps de Maduro pour essayer de faire rentrer sur le sol vénézuélien. Il y est arrivé des produits qui autrement ne rentraient pas. Il faut savoir qu'il y a 450 produits qui sont interdits de commerce international par l'embargo des États-Unis. Touchant la vie quotidienne. Il s'agit de médicaments, il s'agit de nourriture, il s'agit aussi de matériel permettant à l'industrie pétrolière du Venezuela de continuer à fonctionner, des pièces détachées, des choses comme ça. Bon, il avait réussi à mettre ses filières en place, il le faisait, il avait ses facilités, et puis il était rémunéré, il prenait sa commission sur ce qu'il faisait. Mais il amenait des produits qui, autrement, ne seraient jamais arrivés au Venezuela. Bon. Ce monsieur... Ce monsieur fait une escale, alors c'est assez extraordinaire, ce monsieur fait une escale au Cap-Vert, c'est cet archipel qui est au large de la Mauritanie. Bon. Il fait escale au Cap-Vert et tout d'un coup, il voit monter dans son avion, qui était là pour faire le plein, il voit monter des hommes armés qui lui disent de descendre.
Ouais.
Bon, alors il est descendu parce qu'il ne voulait pas mourir tout de suite. On l'a enfermé un certain nombre de jours. Et il a été enfermé par la demande, par le gouvernement donc, du Cap-Vert, à la demande des États-Unis d'Amérique, pour l'extrader. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que le gouvernement du Cap-Vert vient d'extrader un monsieur qui était tout à fait en règle du point de vue de toutes les règles internationales, ses papiers, etc., qui n'était là que pour une escale technique, pour que son avion fasse le plein. Ce monsieur est désormais entre les mains de la justice des États-Unis. Qui va l'accuser, si, d'avoir violé l'embargo, bien sûr, puisqu'il a acheté des produits qui étaient... et il a permis à des Vénézuéliens de survivre, y compris des Vénézuéliens dans les quartiers pauvres. C'est ça qui se passe. Alors, dernière chose cocasse, mais on parlait des chefs d'État africains qui ne sont pas tous présentables, le chef d'État de la République du Cap-Vert.
Ah oui.
Bon. Qui a donné cet ordre, qui a obéi à Biden, hein, soyons clairs, ne tournons pas autour de poux. Ce chef d'État, deux jours après que monsieur Saab ait été pris par ses services, a été remplacé parce qu'il y avait une élection. Le président qui l'a remplacé était hostile dans sa campagne à l'extradition de monsieur Saab, seulement l'autre l'a extradé deux jours avant. Et il y a aujourd'hui, tant mieux, à la tête de la République du Cap-Vert, un nouveau président qui, lui, est dans la filiale, est un héritier politique de Amilcar Cabral, grand dirigeant indépendantiste africain, un des plus grands dirigeants indépendantistes africains, assassiné par les colonialistes, il faut le rappeler. Et donc, à quelques jours près, le coup a été très très bien monté, c'est-à-dire que le président sortant, maintenant il n'est plus en affaires, a fait un coup sur ordre des États-Unis, et maintenant il n'est plus président, on ne peut plus rien lui faire. Donc voilà ce que c'est. Et donc là, il y avait un citoyen, je ne sais pas s'il était syrien ou libanais d'origine.
Je vais marquer son nom.
Monsieur Saab, je te donnerai l'article.
Je regarderai, voilà.
Alors, voyez à quoi se joue la fortune. Alors, ce monsieur risque, il est accusé de terrorisme, de complot, il risque la condamnation à perpétuité, rien que ça. Et c'est pas un trafiquant, c'est pas un gamin, c'est un monsieur qui a la cinquantaine, qui s'est mis au service du gouvernement vénézuélien, en disant, mais moi, je vais vous aider, parce que moi, je peux négocier. Moi, en tant que société privée, je peux acheter des produits, après, je les vends à qui je veux. Enfin, ça se fait couramment dans le commerce international. Mais il a dit, mais je le vends à vous, parce que je sais que vous, on vous veut du mal. C'était ça, M. Saab. Bon, c'est encore ça, M. Saab, mais pour faire l'exemple, il est en prison et il risque la perpétuité. Voilà comment se comporte l'Empire. C'est toujours bon de le rappeler. Et puisque je suis... je reste en Afrique. On peut parler de l'Afrique aussi, parce que vous avez tous entendu dire qu'il y a eu, c'était il y a 24 heures maintenant, un coup d'État au Soudan.
Ah ça, je ne sais pas.
Ah oui, il y avait ça.
C'est un nouveau, alors. Ah ça oui, fait le c'est troisième. Un nouveau.
Alors, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Donc, coup d'État, en gros, coup d'État militaire.
Ah, Soudan égyptien.
Plus égyptien. Il y a un dépendant, quand même.
Soudan, on l'appelle le Soudan égyptien, oui.
Oui.
J'ai confondu avec le Mali.
C'est vrai que le Soudan a été égyptien, mais vous savez qu'il a, du temps où la suite de la colonisation britannique, qu'il a mené une vie infernale aux colonisateurs britanniques et que finalement, il a gagné son indépendance comme ça.
Ouais.
Bon. Donc, le Soudan est indépendant. Et puis après, il y a eu une opération montée par à la fois Israël et les États-Unis pour découper le morceau sud, à la suite aussi d'un autre assassinat, l'assassinat du général qui commandait la rébellion sud-soudanaise, qui avait été formé aux États-Unis par les académies militaires les plus pointues, et qui avait signé la réconciliation des mutins, disons, du Sud-Soudan avec le gouvernement du Nord et qui a été assassiné sitôt qu'il a été au pouvoir dans le Soudan réunifié. Donc le Soudan est à nouveau divisé. Mais là, ce dont je parle, c'est le Soudan, la grande partie du Soudan, la partie du Soudan Nord autour de Khartoum. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a de ça 2 ans, donc on était en 2019, a fait irruption une mobilisation populaire très importante qui s'est terminée par la fuite du général, du dictateur qui était là à la tête du Soudan depuis 30 ans, je crois, Omar al-Bashir.
Voilà,
qui était poursuivi par la justice internationale, à qui on voulait beaucoup de mal. Alors, il avait sûrement pas les mains tout à fait propres, mais il avait ce gros défaut aux yeux des États-Unis et d'Israël d'être pro-palestinien, fidèle d'un bout à l'autre de son mandat.
Il est à la CPI actuellement, lui, non ?
Non, il n'y est pas allé. Il était poursuivi par la CPI.
Il est en surveillance.
Voilà. Mais il n'a pas été livré, disons.
Non.
Bon. Et donc, à la suite des grosses manifestations de rue dont on nous a beaucoup parlé, je vais y revenir, M. Omar al-Bashir s'enfuit, se cache là où il est, je ne sais plus où il est, mais enfin, il n'est pas entre les mains de la CPI, et je pense qu'il n'y sera jamais.
Je ne sais pas, en Libye. Ouais.
Oui, ou quelque chose comme ça. Et il se met en place, alors, un espèce de gouvernement de transition, c'est-à-dire que l'armée qui entourait Omar al-Bashir est toujours là, il n'y a que lui qui est parti, et en fait, il se met en place un système qui était évidemment bancal, et j'en ai déjà parlé dans cette émission, un système avec un mélange de cette expression de la société, enfin des gens qui ont manifesté contre le dictateur Omar al-Bashir, et l'armée. Et donc on est dans la période, on était jusqu'à ce lundi, dans la période d'un gouvernement de transition qui était chargé, qui s'était engagé vis-à-vis de la population, à mettre au point une nouvelle constitution.
Dans ce gouvernement, il y a une partie qui est civile.
Voilà, c'est ça. Il y a des civils. Alors, les civils qui ont